Notre thème, c'est « À la conquête de nos Jéricho ». Et le but de cette série de messages que nous avons commencé dimanche passé, c'est de revisiter, de redécouvrir ensemble des grands principes spirituels qui ont permis au peuple de s'emparer de Jéricho. Il y a tout un message derrière cette prise de Jéricho. Et on a commencé à considérer ensemble la semaine dernière que les clés de la victoire, ce qui a permis vraiment aux murailles de tomber, ne se trouvent pas dans le chapitre 6, mais se trouvent dans le chapitre 5. Et il y a dans le chapitre 5 des grandes vérités, puisque en réalité, Dieu a préparé son peuple pour cette conquête. Avant d'envoyer son peuple à la conquête de Jéricho, et encore faut-il préciser, nous ne conquérons rien du tout. Nous nous emparons simplement de ce que Dieu, dans sa grâce, veut bien nous livrer, veut bien nous donner. Mais les conquêtes, c'est lui, c'est pas nous. Dieu dit bien, je livre entre tes mains. Et on verra même que, littéralement, on le verra plus tard dans le message suivant, la semaine prochaine, Dieu a dit littéralement à Josué, j'ai livré. Les murailles étaient vraiment encore intactes, elles étaient encore debout, mais Dieu a dit à Josué, j'ai livré entre tes mains, passé composé. C'est fait, ça c'est fait parce que c'est pas ça le problème. Faire tomber des murailles, avoir raison de certaines situations, te permettre d'aller plus loin, d'avancer dans l'abondance de vie que Dieu a promis pour toi, c'est pas un problème. Et c'est comme si Dieu dans tout ce chapitre, ces chapitres 5 et 6, me disait, les plus grandes murailles sont pas celles qu'il y a à l'extérieur. Les plus grandes murailles sont celles qu'il y a à l'intérieur des cœurs. Les plus grandes murailles ne sont pas celles de Jéricho. J'ai livré entre tes mains, excusez-moi, en deux coups de cuillère à peau, c'était fini, c'était réglé, c'était tombé. J'ai livré entre tes mains. Mais on voit que le Seigneur, dans différents points, chaque message, on va voir quelques étapes, on voit que le Seigneur, avant de faire tomber les murailles à l'extérieur, le Seigneur s'en est pris aux murailles qui sont à l'intérieur des cœurs. Parce que c'est là qu'il y a les plus grandes murailles. Là où il y a les forteresses les plus épaisses, les plus hautes, les plus renforcées, les plus consolidées. L'apôtre Paul parle bien de ces forteresses, des forteresses de raisonnement, de pensée, des forteresses intérieures qui s'élèvent contre Christ. Et ce sont toujours ces murailles-là, que Dieu a visées en premier. Et quand Dieu a demandé à son peuple de se circoncire, ça a été sa première exigence dans le chapitre 5. Derrière le rite physique, on a vu qu'il y a une signification spirituelle. La Bible dit que la circoncision, la vraie, c'est celle du cœur, dit Paul aux Romains, chapitre 2. La circoncision, c'est celle du cœur. Qu'est-ce que ça voulait dire pour nous? Je le rappelle rapidement, vous retrouverez tout sur le site internet. Un cœur circoncis, c'est un cœur soumis et obéissant. C'est ce que signifiait la circoncision. Un cœur soumis et obéissant. Le manque d'obéissance à Dieu, on ne va pas se mentir, c'est une muraille qui nous empêche d'avancer. Un cœur soumis et obéissant. La deuxième signification de la circoncision, c'est que ce cœur doit être un cœur entier, un cœur plein et entier, un cœur sans partage, un cœur à 200%. Le manque d'engagement dans une vie chrétienne, quelle qu'elle soit, c'est une muraille. Le manque d'engagement, c'est un obstacle qui m'empêche de m'emparer de ce que Dieu a prévu pour moi. Et il y a des moments, frères et sœurs, on n'en voit pas plus, on n'en vit pas plus, on n'en reçoit pas plus. J'aime tout le monde, c'est pas méchant, Dieu nous aime. Mais le Seigneur dit, il y a un gros problème d'engagement. Il faut que tu reconsidères quelle est la mesure de ton engagement envers moi et envers mon œuvre. Le manque d'engagement, c'est une muraille. Et puis, il y a aussi dans la signification de la circoncision, le cœur qui est séparé du péché. Parce que là aussi, autant le manque d'obéissance, autant le manque d'engagement sont des murailles, autant le manque de pureté est aussi une muraille qui nous empêche d'avancer et d'aller plus loin. Et les véritables murailles, elles sont là. Et quand Dieu dit à son peuple, vous allez circoncire votre cœur, il commence à s'en prendre aux murailles qui sont à l'intérieur. La deuxième exigence de Dieu dans ce chapitre 5 se trouve au verset 10. C'est un simple verset, mais ce n'est pas anodin et ce n'est pas là pour rien. Juste après leur circoncision, Il est dit au verset 10 que les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Amen. Après avoir circoncis leur cœur, le peuple, après avoir circoncis son cœur, a célébré la Pâque. Déjà, la circoncision, on aurait pu penser que c'était quand même une sérieuse perte de temps, vu la tâche, vu l'enjeu qu'il y avait devant eux. Mais ils ont dû obéir à Dieu et attendre jusqu'à leur guérison. Une fois qu'ils sont guéris, on aurait peut-être pu se dire, bon, maintenant, il faut y aller. Il y a vraiment du boulot. Est-ce que, peut-être que si on en fait plus, si on en fait beaucoup, si on se lève plus tôt, si on part plus tôt, si on attaque plus, si on s'organise mieux, si, peut-être que Jéricho va tomber mieux. Non. Parce qu'on ne gère pas du spirituel avec l'humain. Jéricho, il faut le comprendre, c'est le symbole d'une forteresse de l'ennemi. C'est une forteresse spirituelle. Et comment on gère du spirituel ? Avec du spirituel, et pas avec de l'humain, pas avec des méthodes, des stratégies, de l'organisation, même si c'est bon, il en faut, Dieu n'a rien contre. Non, on gère du spirituel avec du spirituel. Et là, les enfants d'Israël, oui, il y a un énorme défi devant eux, ils vont simplement prendre le temps de célébrer la Pâque. Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui ? Cette deuxième exigence divine qui est la célébration de la Pâque. Alors, en quoi consistait la Pâque ? Si on regarde rapidement, la Pâque avait été instituée par Dieu, on le sait, avant la sortie d'Égypte. Quand les enfants d'Israël étaient encore en Égypte, chaque famille devait immoler un agneau, c'est Exode 12 qui nous le dit, chaque famille devait immoler un agneau sans défaut, pur, sans tache. Immoler, ça signifie sacrifier. Chaque famille devait immoler, devait sacrifier un agneau pur, sans défaut et sans tache. Pourquoi un tel sacrifice ? Ça se trouve dans la définition du verbe immoler. Immoler, ça signifie sacrifier pour répondre à une exigence. C'était une exigence de Dieu. Cette exigence est simple, c'est que le péché étant une telle horreur, une telle abomination, une telle infamie, une telle offense à la sainteté, à la pureté de Dieu, qu'il fallait absolument que cet affront, cette offense, soit lavée dans le sang. Ça ne pouvait pas, parce que c'était, oui, si grave que ça, parce que les péchés beaucoup plus graves que ce qu'on en a conscience, il fallait absolument que l'offense soit lavée dans le sang. Il fallait laver l'offense dans le sang. Plus tard, l'Épître aux Hébreux dira, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est la seule voie pour qu'il y ait un authentique pardon, un véritable pardon. Répandre le sang, ça signifiait naturellement faire mourir. Il fallait la mort pour le pardon, il fallait mourir pour donner la vie, il fallait sacrifier pour pouvoir sauver le pécheur. Ce sacrifice amenait le peuple à réaliser la gravité du péché et le peuple devait comprendre que derrière la puissance du péché, il y avait une puissance de mort. Le péché entraînait toujours la mort. Aux Romains, Paul dit, le salaire du péché, c'est la mort. Tous les principes de Dieu sont là et se vérifient sans problème, sans exception. Alors, ce sacrifice animal, c'était déjà l'expression de la sainteté de Dieu, de sa juste colère, de sa sainteté offensée, mais c'était aussi l'expression de sa grâce. Puisque Dieu, dans sa haine du péché, avait évidemment déjà une compassion, un amour extrême pour le pécheur, et Dieu permettait le sacrifice de cet agneau pour que le péché soit condamné, mais que le pécheur puisse vivre. Équilibre parfait de la grâce, l'horreur que Dieu pouvait ressentir, cette aversion, cette haine du péché, mais en même temps cette passion pour le pécheur. Et c'était autant une manifestation de sa sainteté que de sa grâce, grâce à ce substitut, cet animal. Et le sang ensuite devait être, vous le savez dans l'Exode, une fois l'agneau sacrifié, le sang devait être mis sur les poteaux et sur le linteau de la porte de la maison. Ainsi les Hébreux étaient protégés. Dieu dit, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Le sang n'était pas là seulement pour sauver, le sang, on le voit plus tard aussi, c'est aussi un symbole d'alliance. Tout comme la circoncision était un symbole d'alliance, le sang aussi est un symbole d'alliance. Exode 24, Moïse répand le sang sur le peuple et il dit « Voici le sang de l'alliance ». Alors ce n'était pas seulement pour être pardonné, pour être protégé, mais c'était aussi une façon de montrer une alliance authentique, une alliance de cœur avec Dieu. Si on regarde encore un petit peu la Pâque dans l'Ancien Testament, on s'aperçoit que cette Pâque devait être accompagnée des pains sans levain. Sans levain, ce n'est pas sans le plus loin, V-I-N, c'est sans levain. Le levain, en un seul mot, hein, L-E-V-A-I-N, le levain. C'est ce qui fait gonfler la pâte, c'est ce qui se répand dans la pâte. Alors ici, on a aussi deux symboles très forts dans l'Écriture. C'est que le pain, on le sait, est aussi un symbole de nourriture, c'est un symbole de vie. Jésus dit, je suis le pain de vie, Jean 6. Le levain, représente aussi une influence. Il représente aussi l'influence du péché. Sauf en Matthieu 13, où c'est la seule fois dans toute l'Écriture, une seule fois, Jésus va se servir du levain pour désigner dans une parabole la bonne influence que peut avoir le royaume de Dieu, c'est une exception. Sinon, à chaque fois que le levain est employé dans la Bible, c'est toujours en comparaison, c'est toujours une image du péché. Tout comme le levain contamine la pâte et fait lever la pâte, le péché peut gangréner une vie tout entière. Des pains sans ce levain. Alors, la Pâque, ce n'était pas seulement la délivrance de l'ancienne vie, mais c'était aussi, en célébrant la Pâque, ils célébraient non seulement la délivrance, mais ils célébraient aussi l'entrée dans une vie nouvelle. C'était aussi le symbole, le besoin d'être pas seulement pardonné, pas seulement de mettre un pied dans la vie nouvelle, c'était aussi le symbole, la nécessité d'abandonner l'ancienne vie. Et c'est aussi un symbole que l'on retrouve dans la circoncision du cœur, puisqu'il fallait absolument, le jour où ils ont été circoncis, c'est seulement à ce moment-là que Dieu dit « Aujourd'hui, j'enlève de dessus vous la honte de l'Égypte ». Ça faisait 40 ans qu'ils étaient convertis, ça faisait 40 ans qu'ils se traînaient encore leur ancienne vie. Et c'est seulement au moment où ils se sont circoncis qu'il y a eu ce point de rupture totale entre leur ancienne vie et la vie nouvelle. Et ici, c'est la même chose. On a besoin, pas seulement d'être pardonné par Dieu, on a besoin, pas seulement de mettre un pied dans la vie de Dieu, dans le pays promis et dans ses promesses, on a besoin aussi d'être totalement débarrassé de l'ancien moi, de l'ancienne vie, l'ancienne nature, avec ses mentalités, avec ses affections pour les choses de ce monde, avec des raisonnements, avec des méthodes, avec des principes, avec tout ce qui fait les principes de fonctionnement de mon ancienne vie, de cette vie mondaine. Et je le rappelle, il faut toujours le rappeler, c'est pas méchant, être mondain, la mondanité, c'est pas parce qu'on s'est mis un petit peu de fard à paupières, un peu de couleur sur soi, c'est pas ça le monde. Le monde, c'est un système de fonctionnement, un système de pensée, un système de raisonnement, un système de choix, de priorité qui est antagoniste à la vie de Dieu et qui malheureusement va être encore beaucoup plus présent dans ma vie que les principes du royaume de Dieu. Je peux être chrétien, mais être mondain, non pas parce que j'ai mis un petit peu de fard à paupières, non, c'est pas ça le monde, mais c'est parce que c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de juger les autres. Eh bien, juger les autres au lieu de faire preuve de grâce, ça, c'est l'esprit du monde. Je ne peux pas m'empêcher de critiquer, je critique. Ben, critiquer, c'est ce qu'on fait dans nos lieux de travail, c'est le monde. Je juge, je critique. Dans le royaume de Dieu, on fait preuve de grâce. J'ai des raisonnements contraires, etc., etc. Le monde, c'est un système de pensée et de valeurs qui est radicalement opposé, qui est antagoniste au royaume de Dieu. C'est ça, le monde. Parce que, frères et sœurs, quand Jésus dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde », excusez-moi, si le monde c'est juste d'enlever un peu de maquillage et puis de changer de vêtements, je ne vois pas pourquoi on a besoin de Jésus. Hein. On le fait tout seul de changer de vêtements. Oui ou non? Pour que Jésus dise « Prenez courage, j'ai vaincu le monde », c'est qu'il y a des choses. Le monde c'est un système de fonctionnement spirituel. Je ferme la parenthèse. Mais ces pains sans levain, c'était aussi la nécessité d'une rupture totale avec l'ancienne vie, avec les affections de la vie passée. Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? L'apôtre Paul dit, si vous voulez bien ouvrir avec moi dans 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5, verset 6, « C'est bien à tort, dit Paul, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites donc disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, c'est-à-dire pas avec la mentalité de mon ancienne vie, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. » Et le point central autour duquel toute la pensée de Paul va s'articuler, c'est « Christ, notre Pâque, a été immolé. » Trois points rapidement au sujet de la croix, puisque la commémoration de la Pâque, de la délivrance, puisque la célébration de la Pâque me ramène, moi qui suis dans la Nouvelle Alliance, directement à la croix. La croix, Christ, notre Pâque, a été immolé. La croix est un lieu de délivrance. L'agneau sans défaut, pur, parfait, sans tache, qui a été sacrifié de la façon la plus abominable qui soit, c'est Jésus. Christ, l'agneau sans défaut, Jésus, a été immolé. Il s'est sacrifié pour répondre à l'exigence divine, le salaire du péché, c'est la mort. Sans effusion de sang, il n'y aura pas de pardon. Et ainsi, lorsque Jésus meurt sur la croix, le juste meurt pour les injustes, le saint meurt pour les pécheurs, l'innocent meurt pour les coupables. Et Jésus est parfaitement l'expression à la croix, quand il est suspendu entre ciel et terre, il est l'expression de la colère de Dieu et il est l'expression de la compassion de Dieu. Colère de Dieu parce qu'il fallait que quelqu'un paye la dette du péché, on ne pouvait pas passer l'éponge. Le péché est une affaire beaucoup trop grave, on ne peut pas passer l'éponge. Il faut que quelqu'un paye la dette, il faut du sang pur, innocent, pour laver l'offense et pour assouvir la colère de Dieu. Et quand Jésus meurt et que son propre sang coule, et qu'ensuite, ressuscité, la Bible nous montre qu'il présente son propre sang à Dieu pour nous, ce sang assouvit la colère de Dieu, la juste et sainte colère de Dieu est tombée sur Jésus, il a servi de paratonnerre, elle est tombée sur lui, et non pas sur nous. Donc c'est l'expression de la colère de Dieu, oui. Le péché est une histoire gravissime, la croix c'est quelque chose de très sérieux parce qu'il a fallu que quelqu'un paye la facture et il a fallu payer la facture jusqu'au dernier centime. Jésus a dit « Je boirai cette coupe jusqu'à la lie, jusqu'à l'extrême ». Tout est payé, il a payé la dette du péché, de mon péché, jusqu'à la dernière goutte, jusqu'au dernier centime, il a tout payé. La croix est l'expression de la juste et sainte colère de Dieu, de sa haine pour le péché. Non, on ne pouvait pas s'en sortir sans sacrifice, mais c'est en même temps l'expression de son amour, de sa grâce, de sa compassion. Il a accepté qu'un autre meure à ma place. Alors évidemment, le sang n'est plus maintenant sur des poteaux ou sur les linteaux d'une porte. Nous ne faisons plus ça, nous ne mettons pas ça sur les portes de nos maisons, sur les linteaux de nos maisons. Mais le sang de Jésus, on le sait, c'est écrit, il nous purifie de tout péché, le sang de Jésus est sur nos cœurs, sur nos vies. Et Dieu, lorsqu'il nous regarde, il voit Jésus. Son sang nous lave et nous purifie. Il nous sauve, dit Paul, il nous sauve complètement de la colère à venir. Il nous délivre de la condamnation, il n'y a plus aucune condamnation, dit Paul, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il nous délivre aussi de la puissance du péché et de la mort. Et il y a aussi, comme dans l'Ancien Testament, il y a aussi cette alliance réciproque, puisque ce matin vous êtes content, je ne vais pas prendre du sang animal pour vous le balancer sur vous, en disant « voici le sang de l'alliance ». Non, mais c'est écrit quand même, c'est la même symbolique. Jésus dit bien, lorsqu'il présente la coupe à ses disciples, il dit « voici la nouvelle alliance en mon sang ». Le sang était aussi signe d'alliance. Christ, notre Pâque, a été immolé. Ça me renvoie à la croix. La croix est un lieu de délivrance, un lieu de pardon. La deuxième chose qu'il faut comprendre aussi dans l'œuvre de la croix, c'est que la croix, c'est aussi le point de départ d'une vie nouvelle. Nous commençons à partir de la croix, nous commençons une vie nouvelle. Ce n'est pas seulement une délivrance, ce n'est pas seulement un moment où je suis pardonné. Certes, c'est bien, mais la croix, l'esprit de la croix va beaucoup plus loin. Le but suprême de Jésus à la croix, ce n'est pas seulement de nous sauver, ce n'est pas seulement de nous délivrer, mais c'est aussi de nous faire entrer dans sa vie. La croix, c'est une puissance de vie. Dieu veut rétablir l'homme à l'image de Dieu, à cette image qu'était l'homme avant la chute. La sainteté, tiens, qu'est-ce que c'est la sainteté ? Ben, la sainteté, c'est pareil, hein, ce n'est pas une tenue vestimentaire. La sainteté, ce n'est pas une façon de manger. La sainteté, c'est pas dans l'extérieur. La sainteté, c'est là que ça se passe. La sainteté, c'est à l'intérieur. La sainteté, c'est très simple, frères et sœurs. La sainteté, c'est la bonne santé spirituelle. La sainteté, ça signifie la bonne santé spirituelle de Dieu. Dieu veut me faire progresser dans sa bonne santé spirituelle. Vous voyez une nette différence dans vos corps lorsque vous êtes en bonne santé et lorsque vous êtes malade. Lorsqu'il y a un virus qui vous touche, lorsqu'il y a un virus qui vous affecte, qu'est-ce qui fait ce virus ? Il va visiblement affecter toutes vos capacités, capacités motrices, capacités cérébrales. Quand vous avez un virus, quand vous avez attrapé ne serait-ce qu'une bonne grippe, eh ben, on est au lit et on n'est plus bon à rien. Vrai ou pas ? Si j'attrape un virus, il va grignoter ma santé physique et il va réduire considérablement mes facultés physiques, mentales, cognitives, etc. Ça va même jouer sur mon moral parce qu'au bout d'un moment, j'en peux plus d'être malade, etc., etc., etc. Dieu est saint au sens où il n'y a en lui aucun virus, il n'y a aucun mal. Il est dans une bonne sainteté, dans une bonne santé spirituelle. Et Dieu veut, et c'est pour ça que la sainteté, c'est pas un message pour que des prédicateurs mettent des coups de baguette sur la tête des chrétiens. La sainteté, c'est une grâce. Parce que vous préférez avoir un virus, avoir 42 fièvres et être au lit avec la grippe, ou vous préférez être en bonne santé physique ? Ben, vous choisissez la bonne santé physique. Et ben, dans le domaine spirituel, c'est la même chose. C'est une grâce. Dieu veut que je sois saint, c'est-à-dire mis à part pour lui, mais que je sois en bonne santé spirituelle. Et les gens qui sont en bonne santé spirituelle, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, comme ils ne sont pas atteints par le mal, ben, ils pardonnent. C'est réglé. Les gens qui sont en bonne santé spirituelle, qui ont la bonne sainteté, santé de Dieu, mais ils ne critiquent pas. Pourquoi faire ? Ils ne cherchent pas à régler leur compte. Pourquoi faire ? Ils ne cherchent pas à se bagarrer, à s'imposer. Le mari n'a pas besoin de taper sur la table du poing à la maison en disant « C'est moi le patron, c'est moi l'homme ici, t'es la femme, soumets-toi, tais-toi ». J'ai pas besoin, je suis en bonne santé spirituelle. Et il y a des tas de choses comme ça dans ma vie. Je réalise que la sainteté de Dieu, cette santé spirituelle qu'il veut me communiquer tout à nouveau, fait de moi un être en forme, en santé, santé morale, santé spirituelle, santé physique. Ouais, je suis en forme, je suis en bonne santé. Je peux être malade physiquement, puis être en super santé spirituelle. Je peux être en très bonne forme physique, et malheureusement, spirituellement parlant... Alors la croix, c'est aussi le point de départ d'une vie nouvelle. La vie chrétienne, c'est une vie nouvelle. Ce n'est pas l'ancienne qui essaye de s'arranger. Ce n'est pas l'ancienne qui essaye de faire des efforts. La vie nouvelle, la vie chrétienne, c'est une vie nouvelle. Il y a parfois des gens qui disent « Oh, faut que je fasse encore un effort sur ce trait de caractère. Hein. » Mais excuse-moi, ça fait 30 ans que tu fais un effort sur ton caractère. On va y passer encore 30 ans sur ce trait de caractère. Parce que bien souvent, les chrétiens, les pasteurs, essayent d'améliorer leur vie. On essaye d'arranger notre vie. On essaye de mettre de l'eau dans notre vin. Mais Jésus a dit, on ne met pas de l'eau dans le vin. Il change l'eau en le vin. Il va changer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il va purifier, nettoyer. Et il va nous changer, nous transformer. La vie chrétienne, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle façon de penser. C'est une nouvelle mentalité. C'est une nouvelle façon d'être. Ce sont de nouveaux choix, de nouvelles priorités, une nouvelle façon d'aimer. Paul dit « Toutes choses sont devenues nouvelles ». Si quelqu'un est dans le Christ, toutes choses sont en devenir nouveau, littéralement. Toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Alors la vie chrétienne, non, ce n'est pas l'ancienne qui essaye de s'améliorer, qui fait des efforts pour s'arranger. Non, tu ne vas pas encore faire un travail sur toi-même, pour essayer d'arranger ça. Non, Dieu voudrait que l'ancien toi, il disparaisse et que le caractère de Christ s'installe vraiment dans ton cœur et qu'il y ait cette sainteté, cette santé spirituelle. Et c'est comme ça que les chrétiens, les disciples, ont été identifiés dans l'Église primitive comme chrétiens. Pourquoi on les a appelés chrétiens ? Pourquoi on les a appelés chrétiens, ces disciples ? Parce que quand les autres les ont regardés, ils ont dit « mais ils aiment comme le Christ, ils pardonnent comme le Christ, ils parlent comme le Christ, ils font les œuvres du Christ, ils sont patients comme le Christ, ils sont un comme le Christ. Ils... » Ah ben ce sont des chrétiens. C'est comme ça que les disciples ont été appelés chrétiens. Parce qu'il y avait une façon de vivre. Vous comprenez, ce n'est pas des efforts, je ne fais pas un travail sur moi-même, j'insiste sur ce point. Ce n'est pas l'ancienne vie qui va essayer de s'améliorer. Non, la vie chrétienne, si je passe par la croix, je suis lavé, je suis pardonné, et il faut que je saisisse la vie nouvelle. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, le vieux moi, les vieilles trucs qui vous collent à la peau, c'est passé, je suis dans le Christ. Toutes choses sont en devenir nouveau. Amen. Enfin, si vous préférez vous battre avec votre vieux caractère pendant les 30 prochaines années, c'est votre problème. Mais la Bible a des solutions beaucoup plus efficaces. Un cœur nouveau, un caractère nouveau, un choix nouveau, des priorités nouvelles, des pensées nouvelles, des paroles nouvelles, des sentiments nouveaux, etc., etc., etc. Tout est nouveau. Mais c'est là qu'il doit y avoir ce point de rupture dans nos cœurs. Si je veux m'emparer de la nouvelle vie, il ne faut pas que j'essaye d'améliorer l'ancienne. L'ancienne, il faut que je la fasse disparaître. Il doit y avoir un point de rupture, un point de rupture totale. Faites disparaître le vieux levain. Débarrassez-vous de votre ancienne vie. Et dans la puissance de vie de la croix, dans la communion que je trouve avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec sa parole, oui, il y a la puissance de faire mourir mon ancienne vie, de me changer, de me transformer et de me permettre de m'emparer quotidiennement de ce « toutes choses sont en devenir nouveau ». La croix, c'est un lieu où je trouve le pardon, la délivrance. C'est le point de départ d'une vie nouvelle, mais c'est logique. Si je suis entré dans une vie nouvelle, la croix, c'est aussi un mode de vie. La croix, c'est une façon de vivre. Jésus dit « si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Donc la croix, ce n'est pas un point de passage seulement. La croix, oui, elle m'a amené à l'existence. J'ai été amené à l'existence par la croix. Mais si je suis né à la croix, je dois continuer à vivre par la croix. Je dois continuer à vivre dans l'esprit de la croix. Et la croix, par conséquent, c'est bien plus qu'un point de passage, c'est bien plus qu'une simple doctrine, c'est bien plus qu'une commémoration comme on va le faire tout à l'heure. La croix qui a été manifestée il y a 2000 ans sur cette terre pour Jésus, cette croix doit aussi être manifestée quotidiennement dans mon cœur, dans ma vie. Chaque jour, elle doit être manifestée aujourd'hui en nous par une mise en pratique concrète. Je suis amené à vivre dans l'esprit de la croix. C'est quoi l'esprit de la croix ? L'esprit de la croix, c'est un esprit de pardon. L'esprit de la croix, c'est un esprit de sainteté. L'esprit de la croix, c'est un esprit d'amour. L'esprit de la croix, c'est un esprit de renoncement. Vous savez ce qui est top dans un couple ? C'est quand l'homme et la femme vivent tous les deux dans l'esprit de la croix, dans l'esprit du don de soi et du renoncement à soi. Vous savez pourquoi les couples ne marchent pas ? On peut faire des tas de thérapie de couple spirituelle, j'ai rien contre. Pendant des mois et des années, j'ai rien contre. Mais quand monsieur comme madame vivent dans un esprit de don de soi et de renoncement à soi, bah le couple y marche. Pourquoi ça ne marcherait pas ? Ça ne marche pas parce qu'on tire la couverture à soi. Ça ne marche pas parce qu'on veut que l'autre soit comme nous. On veut que l'autre soit comme nous, on pense qu'il doit être, parce qu'on veut arriver à se réaliser au travers de l'autre, parce qu'on impose ceci, parce que c'est moi qui ai raison, parce que ceci, parce que cela. Et puis dans le couple, on fait des thérapies de couple spirituelles dans les églises pendant des années. Mais si monsieur et madame vivent dans l'esprit de la croix, le couple, il fonctionne tout seul. Ça marche. Vrai ou pas ? Parce que la croix, c'est l'esprit, vivre dans l'esprit de la croix. Et quand j'ai un différend avec mon épouse ou avec mon époux, ou avec un frère, avec une sœur, non, je ne suis pas là pour taper du poing sur la table, non, je ne suis pas là pour avoir raison, je ne suis pas là pour... Non, je suis animé par un sentiment de don de soi et de renoncement à moi. Et il y a des moments, ben, je vis dans l'esprit de la croix, et quand je vis dans l'esprit de la croix, et quand on se tait parce qu'on est animé par l'esprit de la croix, au lieu de se lancer dans une dispute, mais on a gagné beaucoup. Et la croix a déjà réglé plein de choses dans nos cœurs, dans nos couples, dans nos familles, dans nos relations entre frères et sœurs. La croix règle tout. La croix est suffisante. Elle est suffisante pour tout. Et quand je vis dans l'esprit de la croix, j'ai cet état d'esprit de la brebis muette devant ceux qui la tondent. Et bien des fois au boulot, je me fais tondre. Ben oui, mais je ne me fais pas justice moi-même. Je vis dans l'esprit de la croix. Je vis dans un esprit de renoncement. Et c'est pareil dans mon couple, c'est pareil dans l'église, c'est à tous les domaines possibles et imaginables. Il y a des moments, frères et sœurs, l'esprit de la croix m'amène à me taire. Parce que mon Seigneur a été semblable à une brebis muette qu'on a menée à l'abattoir. Il est resté muet devant ceux qui la tondaient. Et si j'ai l'esprit de la croix, ben je vais me taire. Et vous savez que quand on se tait, on peut éviter beaucoup de péchés, on peut éviter beaucoup de dégâts, on peut éviter déjà rien que ça. Avant de sortir une parole de grâce, d'amour, une parole inspirée par l'Esprit qui va apaiser une situation, avant d'amener une parole de Dieu dans une situation, croyez-moi, quand on commence par se taire, on a évité déjà beaucoup de dégâts. C'est l'Esprit de la croix. Je vis, chaque jour, je vis dans l'Esprit de la croix. Et cet esprit de la croix, il inspire mon quotidien, il inspire mes pensées, il inspire mes paroles, il inspire mes intentions, il inspire ma volonté. Parce que même ma volonté, j'y ai renoncé. Jésus a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Et quand moi, non pas pour un leitmotiv qui fait joli dans la prière, mais quand moi de cœur je dis, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne, je vis dans l'esprit de la croix. Vous comprenez ? Et cet esprit de la croix peut, bien sûr, embraser et régir toutes les sphères de mon existence. La croix, c'est un lieu de renoncement. Elle doit être manifestée jour après jour dans ma vie. Je viens à l'église, je viens à la réunion, je viens voir mes frères et sœurs, je viens écouter la parole, j'ouvre la parole chez moi, j'ouvre la parole à l'église, je prie chez moi, je prie à l'église. Frères et sœurs, quand on lit la Bible, quand on prie, quand on fait n'importe quoi, si on ne le fait pas dans l'esprit de la croix, on n'est pas sur la même longueur d'onde que Jésus, de toute façon. Hein. Tout est fait, régi, dicté, motivé par l'esprit de la croix. Alors vous voyez que la croix, c'est bien plus que l'endroit où je vais trouver le pardon, même si je l'ai trouvé, gloire à Dieu. La croix, c'est un lieu de renoncement. La croix, c'est un lieu de brisement. Bien sûr que tout ça, ça me brise. Intérieurement, ça m'anéantit, ça brise mon vieux moi. Quand je me tais devant une injustice, ben ça s'appelle un lieu de brisement. Et Jésus, sur la croix, n'a pas seulement renoncé, il a été brisé. La croix, c'est un lieu de vie. Il y a une puissance de vie extraordinaire qui jaillit de la croix et du mode de vie, de l'esprit de la croix, mais avant d'être un lieu de vie. Mais la croix, c'est un lieu de mort. Pour que je vive aujourd'hui, il a fallu que Jésus meure et ressuscite. Mais il a fallu qu'il meure, oui ou non? Et pour que d'autres puissent vivre autour de moi, ben, il faut que je meure à moi-même. C'est la même chose. C'est un lieu de brisement. Ce n'est pas seulement la mort de Jésus, frères et sœurs. C'est aussi la nôtre, c'est aussi la mienne. Cette mort à soi, la mort de cette vieille nature, de la chair, de ce vieil homme. Et encore une fois, mais c'est génial. Le Seigneur a pensé à tout dans un minimum d'espace et de temps. L'esprit de la croix, c'est aussi le brisement, c'est la mort à soi, c'est la mort de ma vieille nature charnelle. Pourquoi le Seigneur est-ce qu'il en veut autant à mon vieux moi et qu'il veut qu'il disparaisse? Pourquoi? Parce que c'est mon vieux moi qui est incapable de résister au péché. C'est pas l'homme nouveau, c'est la vieille nature. C'est l'être intérieur, c'est ma vieille nature, le vieux moi, la chair, l'affection de la chair. C'est ça qui est incapable de résister au péché. Je prends un exemple. Vous avez des femmes ou des sœurs ou des frères, ils sont terriblement jaloux. Dès qu'il y a une femme qui va tourner autour de leur mari, ou inversement, et à ce moment-là, on commence à rentrer dans une guéguerre. Vas-y, montre-moi ton portable, et donne-moi ci, et montre-moi ça, et ensuite ceci, et puis elle machin, et puis ceci. Et comment on fait pour gérer ? Avec le nombre, on va être clair, avec le nombre de tentations qu'il y a dans ce monde, autant pour des hommes que pour des femmes. Est-ce que je vais passer ma vie à me bagarrer, à faire des efforts pour résister à telle tentation, pour résister à ceci, pour résister à ça, pour résister à ça, et pour essayer de me battre et de m'améliorer là, et ne pas craquer au travail sur celui-là, ou sur elle, ou pour... Je vais passer ma vie à me bagarrer. Ou alors, je rentre dans la dynamique de la croix, et quand mon vieux moi est mort, ben le péché, j'ai pas envie. Je trouve même pas de plaisir. Ah, c'est peut-être Claudia Schiffer ou qui vous voulez qui passe devant. De toute façon, m'intéresse pas. Et c'est naturel, c'est spontané. Et je suis pas obligé de faire un effort en me disant... Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est ce que faisaient les pharisiens à l'époque de Jésus. Ils condamnaient, ils donnaient des lois. Et ils étaient tellement hypocrites que de toute façon, la loi n'ayant pas réglé le péché dans leur cœur, quand ils voyaient une femme, ils faisaient comme ça. Parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient incapables de résister. Ils étaient vaincus par le péché. Et le péché, pourquoi il vit encore parfois si facilement sous toutes ses formes? À cause de cette nature charnelle qu'on n'a pas voulu faire mourir en nous. C'est ma nature charnelle qui est incapable de résister au péché. C'est ma nature charnelle qui est incapable de résister à la colère. Ah, je me suis encore énervé, c'est plus fort que moi. Pourquoi? Parce que ta nature charnelle, c'est elle qui vit. C'est ma chair qui est incapable de résister au péché, à la colère. C'est ma chair qui est incapable de résister à l'animosité, à la rancune, à la dispute, à la jalousie, à l'esprit de parti, à l'impureté, à la critique. Mais quand j'ai laissé la croix faire vraiment son œuvre dans ma vie, ben oui, je peux dire avec Paul, je suis mort avec Christ. C'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Toutefois, si je vis dans la chair, c'est l'esprit de Christ qui vit en moi. Eh ben voilà, c'est réglé. Je vous donne une image pour essayer de bien assimiler ça. Un poisson, dans l'eau, il peut être tenté par des tas d'appâts. Soit vous passez votre vie, vous, en tant que poisson, parce qu'on est chrétien, on est des poissons. Soit vous passez votre vie à essayer d'ignorer, de ne pas regarder ou de détruire tous les appâts. Ou alors vous tuez le poisson. Parce que si le poisson est mort, vous pouvez lui lancer tous les appâts que vous voulez. Il ne réagira pas. Merci Seigneur, c'est génial la mort à soi. Il y a des gens qui font des... Non, mon vieux caractère, il va disparaître. Ben, ça nous ferait plaisir que ton vieux caractère il disparaisse, mon frère. On s'aime, hein, bien sûr, mais franchement, mais... Et soit tu vas passer ta vie à essayer de régler des choses, de les arranger, de lutter, de te battre, de te fatiguer, tu vas essayer d'ignorer ou d'éviter tous les appâts, les pièges, les tentations, Et on va passer, je réinsiste, il y a des sœurs, elles passent leur vie entière à essayer de couper tous les appâts qui pourraient se présenter sur ce fameux poisson qu'est leur mari. Ça devient une vie ingérable. Il y a des frères, ils essayent de couper, d'éviter tous les appâts pour leur propre vie ou celle de leur épouse. Ça devient ingérable. Je ne peux pas passer ma vie, ce n'est pas mon appel, je dois servir Dieu. Je ne peux pas passer ma vie à essayer d'éviter des appâts. C'est impossible, c'est ingérable. Il n'y a qu'une solution. Il faut que le poisson y meure. Et quand je suis mort à moi, tout ce qui se passe autour, ça ne m'atteint pas. Je n'ai même pas besoin de faire d'efforts. Ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de critiquer, j'ai pas envie de me disputer, j'ai pas envie de vivre dans la rancune, j'ai pas envie d'en vouloir à l'un ou à l'autre, j'ai pas envie de me venger. J'ai pas envie. Et j'ai pas besoin de faire d'efforts, c'est naturel. J'ai pas envie de me venger. Parce que quand la croix a fait son œuvre, quand j'ai laissé la croix aller jusqu'au bout de son œuvre dans mon cœur, excusez-moi, je le dis ainsi, quand j'ai planté la croix, non pas dans ma tête ou sur la table de scène le dimanche matin, mais quand j'ai planté la croix dans mon cœur, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Et à ce moment-là, merci Seigneur, je peux vivre de sa vie naturellement. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont en devenir nouveau. Merci Seigneur. Oui, je comprends que avant d'aller à la conquête de Jéricho, le Seigneur ait dit, avant de m'occuper des murailles extérieures, je vais m'occuper des murailles qui sont à l'intérieur, de celles qui sont dans ton cœur. Et tu vas prendre le temps de célébrer la Pâque. C'est-à-dire, tu vas prendre le temps véritablement de repasser par la croix. La croix, c'est un lieu de pardon, c'est un lieu de délivrance. La croix, c'est un lieu qui est en fait le départ d'une vie nouvelle. Et la croix, c'est une façon de vivre. Je suis appelé, frères et sœurs, à vivre jour après jour dans ce mode de vie qu'est la croix, dans l'esprit de vie de la croix, dans la dynamique de vie de la croix, dans le renoncement de la croix, dans la priorité, dans cette vie qu'est la croix. Parce que la croix, ça reste et ça restera toujours la plus puissante de toutes les armes de Dieu. C'est la plus puissante de toutes les puissances. Les puissances qui sont parfois en nous, à l'extérieur, sont des puissances spirituelles. On ne gère pas du spirituel avec de l'humain, avec de la thérapie, avec ce que vous voulez. On gère du spirituel avec du spirituel. Et il n'y a rien de plus puissant et de plus efficace que l'œuvre de la croix plantée dans mon cœur. Et le jour où le peuple a célébré la Pâque devant ces impossibilités, c'est comme s'ils avaient pris le temps de prendre la croix et de la replanter dans leur cœur. Et à ce moment-là, les choses ont commencé à avancer. Parce que la croix, c'est la puissance de Dieu. Amen. La croix est bien plus puissante que toutes les autres puissances, quelles qu'elles soient. Amen.